VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 5 mai 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seydoulia
et Nathalie Barge.
Pour commencer, les titres.
En Guinée, la justice annonce des poursuites pour assassinat contre le président déchu Alpha Condé et d'autres anciens hauts responsables.
En Côte d'Ivoire, arrestation à Abidjan du commandant Abdoulaye Fofana, un ex-proche de l'ancien premier ministre en exil Guillaume Soro.
Les rebelles tchadiens saluent le report du dialogue de réconciliation mais refusent une prolongation de la transition.
En Afrique du Sud, les mineurs en grève du géant Sibanye-Stillwater préconisent prolongent leur mouvement jusqu'à satisfaction de leurs revendications salariales.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, veut un retour des productions agricoles ukrainiennes et russes sur les marchés mondiaux pour aider les pays émergents.
En Ukraine même, trêve en vue à l'aciérie de Mariupol pour évacuer des civils. Ne manquez pas notre page sport avec Nanit Dalani. Pour l'instant, le journal.
Le procureur général de Conakry a annoncé hier des poursuites par voie de dénonciation contre l'ex-président Alpha Condé, notamment pour assassinat, actes de torture et enlèvement. Une trentaine d'anciens hauts responsables sous la présidence Condé sont également visés. Des précisions avec Eric Manirakiza.
Parmi les personnalités visées, un ancien président de la Cour constitutionnelle, d'anciens présidents de l'Assemblée, un ancien premier ministre et une foule d'anciens ministres, députés et responsables des services de sécurité. Les investigations paraissent viser essentiellement les deux dernières années de la présidence Condé. Selon le document de réquisition, le procureur Alphonse Charles Wright les incrimine pour meurtre, assassinat et complicité, disparition forcée, détention, enlèvement, actes de torture, coups et blessures volontaires, viols et agressions sexuelles ou encore actes de pillage. Le magistrat a précisé dans un message à l'AFP que les poursuites étaient lancées à la suite d'une plainte du Front National de Défense de la Constitution, un collectif qui a mené pendant des mois à partir d'octobre 2019 la contestation contre un troisième mandat d'Alpha Condé. La répression de ces protestations a fait des dizaines de morts, quasiment tous civils.
En Côte d'Ivoire, le commandant Abdoulaye Fofana, l'ex-aide de camp de Guillaume Soro, a été arrêté et détenu dans les locaux de la gendarmerie d'Agban à Abidjan. C'est ce qu'a affirmé Moussa Traoré, ancien chef de la communication de M. Soro, tout en précisant que le commandant Fofana n'était plus en contact avec le camp de l'ex-premier ministre depuis avril 2021.
Et l'an dernier, la justice ivoirienne avait lancé un mandat d'arrêt pour trouble à l'ordre public et port illégal du treillis contre le commandant Fofana, après de nombreuses déclarations qu'il a faites sur les réseaux sociaux appelant à une mutinerie des soldats en Côte d'Ivoire.
Guillaume Soro, qui a rompu avec le président Alassane Ouattara début 2019 et vit en exil à l'étranger, a été condamné à la mi-juillet 2021 par contumace à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État, complot et tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État.
Les rebelles qui discutent au Qatar avec les autorités tchadiennes pour aboutir à des négociations de paix ont salué le report du dialogue de réconciliation à N'Djamena. Le point avec Jacques Aristide.
Dans un communiqué, les mouvements politico-militaires et alliés disent toutefois refuser que cela ne serve de prétexte à la prolongation de la période de transition. Ils réclament également l'implication de tous les acteurs politiques pour convenir d'une nouvelle date. N'Djamena a donné son accord au report de ce forum prévu initialement le 10 mai sans donner de nouvelle date. Le report a donc été décidé à la demande du Qatar, médiateur d'un pré-dialogue qui piétine depuis un mois et demi à Doha entre la junte et les innombrables groupes rebelles. Quelques jours après sa prise du pouvoir en avril de l'année dernière, la junte, dirigée par Mahamat Idriss Déby Itno, fils de l'ancien président Idriss Déby, a indiqué que la période de transition de 18 mois pourrait être prorogée une fois. Paris, l'Union européenne et l'Union africaine ont alors demandé que la transition n'excède pas 18 mois. Le pré-dialogue de Doha doit amener le pouvoir à la table d'un dialogue national inclusif avec les oppositions politiques et armées pour déboucher au final sur une nouvelle constitution et des élections libres et démocratiques. Mahamat Idriss Déby Itno a été nommé à la tête d'un conseil militaire de transition en avril 2021 après la mort de son père, le maréchal Idriss Déby, tué au front contre des rebelles.
En Afrique du Sud, les mineurs de Sibani Stillwater ont décidé de prolonger leur mouvement de grève jusqu'à ce qu'ils obtiennent, là, une hausse salariale. La société est le premier producteur mondial de platine et le deuxième producteur d'or du pays. Claire Morin-Gibourg.
Plusieurs dizaines de milliers de travailleurs réclament depuis deux mois une augmentation mensuelle de 1000 randes, soit 63 dollars. Les mineurs sont en grève depuis le 9 mars après l'échec de négociations avec la direction du groupe minier. Les grévistes n'ont pas été payés depuis cette date. Les syndicats accusent la direction de l'entreprise d'arrogance alors que la société a versé l'an dernier à son PDG près de 18 millions d'euros. Le porte-parole de Sibani Stillwater accuse en retour les syndicats de faire preuve de rigidité pendant les négociations, assurant qu'une offre juste leur a été faite. Le week-end dernier, des mineurs ont chassé sous les huées le président Cyril Ramaphosa des célébrations du 1er mai. Le chef de l'État a reconnu une perte de confiance de la classe moyenne. Le secteur minier en déclin contribue à hauteur de 8% de la richesse nationale et emploie 450 000 personnes. De nouvelles discussions sont prévues ce jeudi.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré hier au Nigeria qu'il cherche, en dépit de la guerre en Ukraine, à faire revenir sur les marchés mondiaux les productions agricoles ukrainiennes et russes pour aider à mettre fin à la crise que subissent actuellement les pays émergents. Une déclaration faite à Abuja où il s'est entretenu avec le président Muhammadu Buhari.
L'offensive russe en Ukraine le 24 février et les sanctions économiques contre Moscou ont interrompu les livraisons de blé et autres denrées alimentaires provenant des deux pays, faisant s'envoler les prix de ces denrées ainsi que ceux des carburants, en particulier dans les pays émergents.
La progression des prix du blé est particulièrement préoccupante selon le FMI, car l'Afrique subsaharienne importe 85% de sa consommation de cette céréale, avec des montants particulièrement élevés en Tanzanie, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mozambique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un cessez-le-feu unilatéral russe de trois jours pour évacuer des civils doit entrer en vigueur ce matin autour de l'aciérie de Mariupol, dernier bastion de résistance ukrainienne dans cette ville portuaire stratégique, mais les combats continuent dans le reste de l'Ukraine. Les forces russes ont multiplié les bombardements de l'Est jusqu'à des régions proches de la Pologne et de la Hongrie. Une réunion du Conseil de sécurité consacrée à l'Ukraine est prévue ce soir à New York.
L'Union européenne va intensifier sa pression sur Moscou avec une interdiction progressive des importations de pétrole et de nouvelles sanctions afin de faire payer le prix fort au président russe Vladimir Poutine pour sa guerre contre l'Ukraine, a annoncé hier la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
La Fed, la banque centrale américaine, a annoncé hier le relèvement de ses taux directeurs d'un demi-point de pourcentage. C'est le premier tour de vis de cette ampleur depuis mai 2000 pour tenter de contrôler l'inflation qui est au plus haut depuis 40 ans. Le point avec Rosine Mounet-Zéro.
Le comité de politique monétaire a porté les taux d'intérêt dans une fourchette entre 0,75% et 1% à l'issue d'une réunion de deux jours. Il estime que d'autres hausses seront justifiées, d'autant que la guerre en Ukraine et les nouveaux confinements en Chine aggravent la pression sur les prix et les problèmes de logistique. En mars, la Fed avait commencé à relever ses taux pour la première fois depuis 2018. Elle avait toutefois signalé sa volonté de procéder à 6 autres hausses cette année. Depuis, l'inflation a continué de grimper, aggravée par la guerre en Ukraine. Elle a atteint en mars un sommet jamais vu depuis décembre 1981, plus de 8,5% sur un an, selon l'indice CPI. Le taux de chômage est proche de son niveau d'avant la pandémie, mais les entreprises sont confrontées depuis des mois à des pénuries de main-d'œuvre et à des démissions massives chaque mois. Outre la hausse des taux directeurs, la Fed a annoncé qu'elle allait commencer à réduire son bilan dès le 1er juin, une étape majeure de la normalisation de la politique monétaire.
Les pays de l'OPEP qui se réunissent jeudi devraient une nouvelle fois convenir d'une hausse marginale de leur production de pétrole, confortée par les risques qui pèsent sur la demande sur fond de restrictions anti-Covid en Chine.
Pékin a fermé hier des dizaines de stations de métro pour lutter contre le Covid-19, restreignant les déplacements des habitants, même si la capitale chinoise de 21 millions d'habitants ne recense que quelques dizaines de cas quotidiens. À présent, les sports avec Nani Talani.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Le Real Madrid ne meurt jamais. Grâce à l'inévitable Karim Benzema, le roi d'Europe a signé une nouvelle remontée extraordinaire hier soir dans son antre de Santiago Bernabéu pour renverser Manchester City 3-1 en prolongation. Laissé pour mort après l'ouverture du score de Riyad Mahrez à la 73e qui offrait 2 buts d'avance en cumulé aux Sky Blues, le Real a encore renversé une montagne par son jeune prodige brésilien Rodrigo, entré à la 68e et auteur de 2 buts en l'espace de quelques secondes à la 90e et à la 90e plus 1 pour pousser le match en prolongation. Et à la 95e, le héros Karim Benzema est entré en scène. Muet et imprécis jusque-là, le prince madrilène a retrouvé sa cape et a transformé un pénalty qu'il a lui-même provoqué pour propulser le Real en finale avant de céder sa place à la 104e. Le Real avait perdu 4-3 à l'aller. Il rejoint donc Liverpool de Sadio Mané et Mo Salah en finale de la Ligue des Champions le 28 mai au Stade de France. L'Olympique de Marseille reçoit ce jeudi soir le club hollandais de Feyenoord de Rotterdam pour la demi-finale retour de la Ligue Europa Conference. Les Hollandais ont remporté la manche aller 2-3 la semaine dernière. Quelques 3200 supporters néerlandais sont attendus au stade Vélodrome et plus de 1000 autres en ville sans billet. Pour éviter des débordements, une fan zone sera installée sur la plus grande plage de Marseille afin de les accueillir. Toujours en football, mais sur le continent africain, passation de charge hier entre le comité de normalisation et le nouveau président élu de la Fédération ivoirienne de football à Abidjan en Côte d'Ivoire. Yacine Idriss Diallo, le président élu, a été installé dans ses nouvelles fonctions de dirigeant de l'instance du football ivoirien. Le nouveau président de la FIF a annoncé l'appel à candidature pour le poste de sélectionneur et sélectionneur adjoint des éléphants de Côte d'Ivoire. Ils avaient été éliminés prématurément à la dernière CAN au Cameroun et n'ont pu se qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar, malgré leur pléthore de stars. Du jamais vu pour une pièce de collection sportive. Le maillot que portait le génie du football argentin, Diego Maradona, quand il a crucifié l'Angleterre lors d'un match de légende de la Coupe du Monde 1986, a été adjugé pour près de 9,3 millions de dollars chez SoftBuys, battant tous les records. La main de Dieu, le but du siècle, est un maillot très précieux. Après une vente sur Internet qui a duré 2 semaines et s'est enflammée dans les dernières minutes à coups d'offres et de contre-offres, on ignorait mercredi qui a mis une telle somme sur la table pour s'offrir cette relique du PIB de Oro, décédé le 25 novembre 2020.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le gouvernement de transition du Mali demande au Togo de jouer les bons offices auprès des autres pays de la CEDEAO dans le cadre des sanctions contre Bamako. Une délégation composée de ministres et de membres du Conseil national de transition vient de séjourner dans la capitale togolaise. Pour le Mali, le choix du Togo ne fait pas de doute, nous dit de Lomé notre correspondant Kossi Wosso.
Le Mali cherche à desserrer l'étau de l'embargo que lui a imposé la CEDEAO depuis quelques mois déjà. Le président de la transition du Mali a pensé au Togo pour convaincre les autres pays de la sous-région. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, l'a annoncé hier à Lomé.
Vu les difficultés qu'il y a, nous avons, au nom du président de la transition, sollicité le Togo, sollicité le président fort Ezosimna Niasimbe pour pouvoir user des bons offices et aussi vraiment user de sa sagesse, de son expérience pour pouvoir aider à faciliter le dialogue avec les acteurs régionaux, mais plus largement le dialogue avec l'ensemble de la communauté internationale pour pouvoir trouver un compromis qui puisse nous permettre de sortir le Mali de cette situation, mais aussi de renforcer la stabilité de la région.
Reçu en audience par le chef de l'État togolais, Abdoulaye Diop a indiqué que Faure Gnassingbé est la personne indiquée pour aider son pays dans cette quête de dialogue avec les autres pays de la CEDEAO et la communauté internationale pour sortir le Mali de cette situation.
Nous savons que le président Faure Gnassingbé a une approche mesurée, équilibrée et constructive par rapport à la gestion de la situation politico-sécuritaire de la région en général, mais surtout par rapport à la gestion des processus de transition. Et que dans ce cadre aussi, nous savons qu'aujourd'hui le Mali est un pays qui est sous un embargo de la CEDEAO, et nous savons aussi que le Togo lui-même en tant que pays a vécu plus de 15 ans sous des sanctions internationales. Et nous pensons que le Togo a la légitimité aujourd'hui de pouvoir aussi partager sa petite expérience avec le Mali.
Le Togo s'est investi dans la résolution de la crise malienne en présidant le groupe de soutien à la transition au Mali. Pour Robert Doucet, son homologue togolais, c'est une tradition et le président Faure accepte de bon cœur cette mission.
Le président de la République se réjouit de cette offre et volontiers aidera la population malienne, aidera le Mali, le gouvernement malien par la facilitation à ce que vous puissiez aller vers des élections libres, démocratiques, crédibles, et que désormais un gouvernement civil, en respectant l'ordre constitutionnel, soit rétabli dans votre pays.
Faure Gnassingbé prendra donc son bâton de pèlerin pour faire revenir à la raison les autres chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Déjà, lors d'une visite récente à Abidjan, il avait exprimé auprès de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, que dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région, aucun pays ne peut être laissé derrière. Kossi Wosso, Lomé, pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
En République démocratique du Congo, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, actuellement sénateur, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2023. Eddy Issango a joint à Kinshasa Augustin Matata Ponyo, qui fait face à des démêlés judiciaires parce qu'accusé de détournement de fonds publics.
C'est un choix qui a été porté sur moi par tous les congressistes du nouveau parti qui a été créé et qui s'appelle LGB. Et tous les congressistes ont préféré me présenter comme les candidats aux élections présidentielles pour le compte de notre parti.
Qu'en est-il alors des démêlés judiciaires sur votre dos?
Oui, mais ce sont des démêlés qui sont plutôt politiques que judiciaires. Parce que, comme vous le savez, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a pu, le 15 novembre, émettre un arrêt travers lesquels tous les dossiers qui étaient initiés contre moi ont été jugés non conformes à la Constitution. Et l'article 168, alinéa 2 de la Constitution congolaise dit que tout acte qualifié de non conforme à la Constitution est nul et de nul fait. Donc ça veut dire que du point de vue de droit, du point de vue de la Constitution congolaise, du point de vue des lois de la République, en principe, aujourd'hui, je ne suis plus sous poursuite judiciaire. Et d'ailleurs, monsieur le journaliste, si vous lisez les réseaux sociaux, le procureur général près la Cour des cassations à qui ces dossiers ont été envoyés de nouveau, malheureusement et de manière illégale, parce que la Cour constitutionnelle avait déjà clos les dossiers, le procureur général a dit dans sa note, malheureusement, il envoie au chef de l'État pour demander l'autorisation de clore les dossiers, il a dit clairement que les dossiers étaient très très clos définitivement et classés et sans suite. Voilà.
Mais vous n'avez toujours pas recouvré vos immunités. Comment allez-vous mener la campagne? Vous ne pouvez pas sortir même de Kinshasa.
Écoutez, monsieur le journaliste, j'ai la foi que le moment venu, le pouvoir politique a amené à pouvoir me libérer dans mes mouvements conformément à la Constitution de la République et conformément au règlement intérieur du Sénat. Parce que comment est-ce qu'on peut interdire à quelqu'un de voyager alors qu'il n'y a aucune action en justice contre lui? Comment peut-on interdire un citoyen congolais de pouvoir à l'intérieur comme à l'extérieur du pays alors que la Cour constitutionnelle a clos définitivement les poursuites judiciaires? C'est inacceptable.
Et tout à l'heure, vous avez évoqué des raisons politiques. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Parce que bon, j'ai refusé d'adhérer à l'Union sacrée. C'est tout simplement parce que j'ai refusé de dire que je ne serai pas candidat en 2023, dans tous les cas. Et c'est fait. Je suis déjà désigné par mon parti comme candidat président. Donc c'est devant l'évidence. Donc toutes ces deux demandes ne valent plus la peine.
Le sénateur Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre de la RDC.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
Au Burundi, le ministère des Transports a revu à la hausse les prix des produits pétroliers à Bujumbura et à l'intérieur du pays. Malgré cette hausse significative, l'on observe un manque criant d'essence et de mazout sur bon nombre de stations. Et le prix d'un ticket de transport a été également revu à la hausse. Reportage de notre correspondant Christophe Kourounziza.
Sur l'avenue de l'université à la station Kobil, s'observe une rangée interminable de voitures et camions qui attendent impatiemment leur tour pour remplir leur réservoir à essence et ou mazout. Remplir sa voiture ces derniers jours devient une gymnastique très difficile. En plus d'une deuxième hausse de ses produits pétroliers ce mardi, la rareté de ces produits pousse les conducteurs de taxi à augmenter le prix de transport sur quasiment toute l'étendue de la République. Ce jeune homme, Nikoya Nyobama, célibataire, affirme que le gouvernement devrait tout faire pour obtenir ces produits qui se raréfient du jour au lendemain.
Je suis très fatigué même. Ça fait plus de 4 jours que je cherche de l'essence, mais je ne le trouve pas. J'ai décidé même de laisser garer ma voiture devant une station. J'attends comme tout le monde, mais on dit que l'essence, on a rehaussé le prix de l'essence, mais on ne le trouve même pas. Que le gouvernement augmente les prix, ça ne dit rien, mais qu'on puisse trouver l'essence. C'est ça l'important.
Des bousculades sont observées devant cette station Kobil vers les heures de midi, chacun voulant être servi le premier malgré la présence des policiers chargés de la sécurité. Cet homme, Karikuru Ubu, vient d'avoir l'opportunité d'avoir de l'essence, mais après avoir passé de nombreuses heures devant la station Kobil.
Je dirais j'étais sur la station depuis 9 heures. Maintenant, je viens d'avoir une chance d'avoir de l'essence. Mais je dirais que c'est une opportunité parce que les autres souffrent. Ils sont là-bas, mais je ne sais pas s'ils vont avoir cette opportunité comme moi. Mais je pense que ça va y aller quand même. On est toujours sur la station, on attend toujours. Il y a même des autres qui passent la nuit là-bas. Je demande à l'État que ça pourrait progresser un peu, oui.
Ce professeur d'université qui a requis l'anonymat est arrivé sur la file de voiture vers 14 heures. Il attendra le temps qu'il faudra et peu importe le prix.
Oui, nous sommes habitués. Nous allons attendre au plus 2 heures. Bon, nous sommes habitués. C'est l'habitude maintenant. Nous sommes habitués. J'ai arrêté tout ce que je dois faire pour faire la queue. Pour le moment, je le demanderai si je trouve un responsable, un représentant du peuple. Tu sais ce qu'on demande, c'est d'avoir les stocks suffisants.
Le manque des produits pétroliers est devenu un casse-tête pour les citoyens burundais. Mais le président Évariste Ndayishimiye rassure et indique que tout rentrera dans l'ordre dans un proche avenir. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la tournée du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest cette semaine. Il s'agit d'un périple effectué précisément au Sénégal, au Niger et au Nigeria. Antonio Guterres réclame le départ des jeunes qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. L'occasion également pour lui d'aborder le danger terroriste au Sahel, tout comme celui du climat, sans oublier l'impact de l'invasion russe de l'Ukraine sur l'Afrique. Que pensez-vous de ce voyage africain d'Antonio Guterres? Que peut davantage faire l'ONU pour aider le continent? Faites vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h30.
Au Cameroun, le gouvernement devrait investir dans la production locale des céréales. C'est ce que recommandent les opérateurs du secteur avicole suite aux crises sanitaires du Covid-19 et de la grippe aviaire. Cette solution a été préconisée au terme de la 4e édition du Salon avicole international de Yaoundé, organisé à l'initiative du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales et de l'interprofession avicole du Cameroun. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Les vraies difficultés que nous connaissons, c'est la flambée des prix des céréales.
Jean-Daniel Ayamapi est le directeur général d'une société camerounaise spécialisée dans la production des poussins d'un jour et des avéoles. Cette structure est une filiale de l'un des plus grands groupes de l'interprofession avicole du pays. La flambée des cours des céréales préoccupe au premier point Jean-Daniel Ayamapi, directeur général d'Agrocam.
La plus grosse difficulté aujourd'hui est au niveau de la nutrition, de tout ce que nous produisons. Le soja, le maïs, les prix ne font que grimper. Que s'il fallait continuer de demander un appui auprès du gouvernement, c'est comment subventionner les importations de ces céréales sur le court terme, mais à moyen terme, envisager une véritable production locale en céréales.
L'interprofession avicole au Cameroun fait aussi face au défi de la mécanisation. Dans les couloirs du Salon avicole international de Yaoundé, certains producteurs racontent leurs déboires.
Chaque fois qu'on introduit un humain, le rendement chute. J'ai été obligé de suspendre ma production à cause de ce phénomène.
Nous avons eu à élever par les méthodes précaires. Nous avons rencontré toutes les difficultés.
Des solutions à la mécanisation de la production existent bel et bien, mais elles sont parfois onéreuses pour les producteurs moyens. Saül Namon, responsable commercial d'une structure de vente de cages d'élevage de poussins.
Je crois que pour pallier à ça, moi je conseillerais aux petits producteurs d'être en synergie, un regroupement pour une production à grande échelle. Parce que si, et pour avoir peut-être des cages, une batterie d'une capacité de 2000, si tout doit être automatique, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas rentable. Ça y est, par exemple, pour ramasser les œufs, il faudra bien qu'on ramasse les œufs avec la main. Pour mettre la nourriture, pour alimenter, il faudra pas un convoi, mais il faut alimenter manuellement.
Sur le marché local, certes, les œufs à couver ne se font pas rares. Mais l'épisode de la grippe aviaire a été déclaré à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, laissant planer quelques inquiétudes. Jean-Daniel Ayamapi, directeur général d'Agrocam.
Si vous n'êtes pas sûr de conduire un cheptel jusqu'à son terme sans que votre cheptel ne soit infecté, vous devez forcément avoir l'attitude de recul. Mais quand il y a du recul, ça veut dire que c'est des commandes qui peuvent être en baisse.
Pour atténuer les impacts du Covid-19 dans l'interprofession avicole, le gouvernement a accordé des facilités douanières aux investisseurs locaux, notamment l'exonération dans l'importation des équipements. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sebudia et Nathalie Barge. À la mise en onde, Fatouma Kalala Alimassi et à la console, Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.